Le dana, c'est donc une tradition qui est perpétuée depuis environ 2600 ans dans la tradition bouddhiste. Et un des aspects principaux que le Bouddha avait en tête quand il a proposé cette pratique, quand il a structuré l'ordre monastique, quand il a créé l'organisation institutionnelle pour les pratiquants de perpétuer leur pratique, c'est de soutenir le lien d'interdépendance entre les moines, les nonnes et la population laïque. Et c'était, à mon sens, vraiment un coup de génie, parce que les moines et les nonnes devaient maintenir une certaine éthique, une certaine utilité, un certain soutien, un apport, une sagesse, pour qu'ils puissent être valorisés par la société, par les laïcs, qui du coup, en retour, s'occuperaient de leurs quatre nécessités de base, comme c'est écrit dans les textes, donc les habits, le logement, la nourriture et les médicaments. Et donc cette tradition s'est perpétuée au fur et à mesure des différents centenaires, dans les différents pays, certains ajustements. Et en Occident, on est, avec Sophie et Monica, en quelque sorte la deuxième génération d'enseignants laïcs propose de continuer cette tradition quand même en grande partie asiatique. Et c'est pour moi, et après je laisserai Monica et Sophie ajouter un mot de leur part si elle le souhaite. Mais c'est pour moi, par rapport à ce qu'on dit, ce que je présentais tout à l'heure dans cette dynamique sociétale, ce rapport à la transaction et de cette création du lien qui est potentiellement présente dans le rapport à l'argent, le dana est en fait une énorme opportunité. Une opportunité pour offrir, pour pouvoir offrir sans penser à un retour spécifique, mais vraiment dans la valeur de ce qu'on peut apporter et la richesse que ça peut contribuer à la personne à qui on travaille. Donc, l'enrichissement de ce qu'on souhaiterait apporter à votre pratique, des enseignements qu'on aborde et des transformations profondes dans la vie, sans pour autant y apporter une valeur monétaire spécifique. Et en même temps, c'est un peu un pari, dans le sens où en Asie, en fait, les moines et les nonnes aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin vraiment d'enseigner ou bien de réfléchir à ce qu'ils vont recevoir dans les communautés quand ils enseignent, grâce à non seulement ce soutien institutionnel, mais c'est quelque chose qui est devenu culturel au niveau des millénaires. Aujourd'hui, D'ailleurs, certains moines en Thaïlande, quand j'étais moine, sont beaucoup plus riches que les plus riches de la Thaïlande. On peut se poser toutes sortes de questions. On n'en est de loin pas là par rapport à nous, petits enseignants laïcs. Et en même temps, la situation est aussi un peu différente. Dans le sens où moi, par exemple, je suis clinicien, je suis formateur, j'ai toute une profession pour laquelle je suis rémunéré pour certaines activités. Et je suis dans une transition progressive pour vivre de plus en plus à travers le don. Parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de travail dans les zones de guerre, en humanitaire. La plupart du travail aussi que je donne aujourd'hui en formation sont dans des pays en voie de développement, enfin, en Turquie par exemple, où la situation est vraiment totalement catastrophique par rapport à l'échange du lire. Donc en fait, de par mon intérêt et les situations et les populations auxquelles je suis confronté, je remarque de plus en plus la vie me dirige vers ce travail-là, et de moins en moins intéressé même à travailler en Suisse dans des cliniques privées pour lesquelles je pourrais avoir un gros salaire, mais où je sens justement pas cette même qualité de lien qui se forme. Donc je suis de plus en plus investi à travailler dans les retraites, à enseigner dans les retraites, à travailler dans des contextes où ce rapport à l'argent est justement à sa valeur de par la qualité du lien qu'il crée plutôt que par l'aspect monétaire. Ceci étant dit, c'est sûr qu'après, on a quand même des besoins. Terre d'Éveil nous offre les frais pour le transport d'arrivée ici. Avec Monica, on a des coûts qui sont aussi modestes. Mais ça reste encore une nécessité. Et la dernière chose peut-être que je voudrais apporter, peut-être deux éléments. Une, c'est une petite histoire. Donc on a beaucoup pratiqué dans un centre proche de Yangon en Birmanie. Et c'est vrai qu'une des choses qui m'a fait le plus vibrer et qui m'a peut-être même une des choses qui m'a ancré le plus dans ma pratique quand j'y étais là-bas pour de nombreux mois, c'était de voir à quel point, de manière générale, les gens étaient disposés, étaient disponibles, étaient ouverts et voulaient aider. Donc même dans les villages qui étaient incroyablement pauvres, quand les moines sortaient, on avait l'occasion, en tant que laïc, de suivre derrière, on voyait vraiment la joie des villageois, des villageoises, et même des petits-enfants qui donnaient de la nourriture du riz blanc dans les bols. Et l'ambiance et le ressenti que j'avais, c'était même des personnes qui avaient tellement peu, qui avaient cette joie de donner le peu qu'elles avaient, probablement qu'elles ne donnaient pas tout, mais quand même proportionnellement à ce qu'ils avaient. Et c'était quelque chose qui m'avait mais complètement bouleversé, qui m'émerveillait, que je ne comprenais pas, venant quand même d'un système très monétaire, capitaliste, banquier, genevois. Enfin voilà, c'était un truc que je dis, mais comment, qu'est-ce qui se passe là? Et en même temps, quelque chose de tellement émouvant, tellement vivant, tellement joyeux. Mais comment est-ce possible? Donc ça a été une expérience que j'ai vécue tout au long des années que j'ai passées en Asie, qui continue de m'habiter et qui continue de m'inspirer par rapport à ce que je considère comme mon chemin en Occident pour ouvrir de plus en plus ce type d'opportunité à la manière dont on se lie à l'argent. Voilà, c'était les deux éléments que apporter. Je ne sais pas si Sophie et Monica ont voulu apporter quelque chose.
Je crois que Moïse a abordé l'essentiel. Juste une petite chose aussi, pour rentrer un petit peu plus en détail. J'ai eu l'occasion aussi de pratiquer, j'ai resté presque 3 ans en Birmanie, et j'ai eu la chance de pouvoir être ordonnée nonne à l'écart des villes telles que Rangoon, des grandes villes de la Birmanie. Je me suis retrouvée dans un petit village où j'étais la seule femme blanche, la seule occidentale, et j'ai pris mes vœux là-bas. Et en fait, c'est toute la communauté d'un village qui m'a permis finalement de prendre mes vœux. Des femmes sont venues à moi pour m'apporter de la nourriture. D'autres personnes sont venues me coudre des robes. On est venu me raser la tête. On m'a offert un rasoir. Les artisans, les menuisiers du village sont venus me construire avec une aminone, ils sont venus nous construire un kouti en bambou. Sans rien demander en échange. Alors il y a effectivement cette croyance en Asie que lorsque l'on donne à la communauté monastique, effectivement, on va recevoir des mérites en retour, on va peut-être bénéficier aussi d'une meilleure réincarnation. Il y a tout ce système de croyance qui est en place. Mais malgré tout, les gens vous permettent de vivre, les gens vous permettent de survivre à travers cette tradition. Et il y a quelque chose vraiment d'extrêmement touchant dans la mesure où, comme j'en parlais tout à l'heure avec cette pratique de la générosité, elle nous fait vraiment vivre l'expérience d'être en lien, d'être connecté. Et une des choses pour ma part qui est née dans mon cœur à ce moment-là, c'est un sentiment de responsabilité, un sentiment profond d'être endetté à vie vis-à-vis des autres. Ces personnes m'ont donné plus que ce qu'elles n'avaient, pour, simplement pour que je puisse pratiquer. Et de ce fait, je me sens, j'aime ça aussi, mais je me sens une responsabilité de partager le Dharma parce que ces personnes m'ont permis d'apprendre. Et je trouve ça extrêmement touchant. Et ces gens-là, je les reverrai probablement jamais. Ils ne me reverront jamais. Ils n'avaient peut-être aucun intérêt à aider quelqu'un comme moi, mais ils l'ont fait sans se poser de questions. Voilà, ça c'est l'esprit du Dana en Asie.
Merci Sophie pour ce partage. Je suis très touchée d'entendre. Je voudrais aussi partager deux petites histoires de la Birmanie. C'est un pays qui m'a vraiment touchée beaucoup, justement parce qu'il y a cette qualité de générosité partout. Et ça, c'est vraiment, on le sent, on le voit, on le boit. Et dans le petit village à côté du centre de méditation où Boaz et moi on a passé quelques mois, il y a les rues qui sont en terre et des petites maisons à côté de la rue en bambou, en bois, très simple, en hauteur, parce que quand il pleut il y a beaucoup beaucoup d'eau qui coule comme des rivières dans la rue, donc elles sont en hauteur comme ça. Très très pauvre, juste une pièce, tout le monde habite dans la même pièce. Et ce que j'ai trouvé très touchant, c'est qu'en passant par ces rues, à la porte des maisons, il y a une toute petite cabane avec un pot en céramique et un verre avec de l'eau propre. Ce sont des gens qui ont très peu, mais ils mettent de l'eau à disposition pour qu'un passant qui ait soif puisse boire. Ça me touche beaucoup, cette ouverture de cœur, vraiment. Et Boaz racontait tout à l'heure, on allait derrière les moines le matin pour quand ils allaient recevoir les dons de nourriture. C'est de nos jours, c'est du riz blanc. Et derrière la file, on allait derrière et on voyait la dévotion avec laquelle les gens qui ont très peu, très pauvres, cuisine le riz le matin très tôt, se lève extrêmement tôt avant le lever du soleil pour donner du riz frais aux moines. Et ce que j'ai trouvé très touchant, c'est que les mères, elles sortent leur bébé, leur mettent une cuillère dans la main pour qu'ils puissent depuis très 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 tôt apprendre à offrir. Donc il y a vraiment cette appréciation de comment cultiver cette qualité de générosité et les bienfaits que ça a dans l'esprit. Une dernière histoire que je voulais raconter, je ne sais pas si on a le temps. C'est l'histoire d'un moine américain, aussi en Birmanie, dans les montagnes, qui était seul, il méditait là-bas, et il recevait aussi des dons de nourriture pour pouvoir méditer. Et un jour, une fille qui travaillait dans les champs est venue l'offrir une Coca-Cola. Et lui disait, pour acheter une Coca-Cola dans les montagnes en Birmanie, il fallait payer tout le salaire du mois. C'est extrêmement cher, très rare. Donc elle a pensé à lui et il a pensé, ça doit lui manquer le Coca-Cola. Parce qu'il est américain. Il regarde les films. Donc, elle a rassemblé l'argent et elle a demandé aussi à d'autres villageois. Elle a acheté une Coca-Cola qu'il a amenée pour faire le don du Coca-Cola à ce moine. Et donc, à la racine de ce don, ce moine a été en contact avec d'autres méditants américains qui sont venus méditer en Birmanie et ils ont aussi rassemblé des dons pour pouvoir aider les villageois et créer des meilleures conditions pour les enfants et les nonnes dans le village. Donc vraiment, et cette femme, elle n'a jamais rien voulu de retour quand elle a acheté ce Coca-Cola. C'était totalement du cœur. C'était vraiment... Donc voilà, c'est... Je voulais partager un peu de cette culture qui nous inspire et qui nous a beaucoup soutenus dans notre pratique.